coq chanter jour pareil, tous ses debout dans les villages.
Le coq chante. Sayouba Traoré.
Aujourd'hui, nous allons parler de la séquestration du carbone dans les sols agricoles en Afrique. Et pour cela, nous avons interrogé Michel Brossard, qui est pédologue à l'Institut de recherche pour le développement à Montpellier en France et aussi président de l'Association française pour l'étude du sol. D'abord, nous allons poser les principes de base de cette affaire. Aujourd'hui, tout le monde a entendu parler du réchauffement climatique et de ses effets sur la vie sur Terre. Les éléments responsables de ce réchauffement climatique, c'est ce que les spécialistes appellent des gaz à effet de serre. En effet, quand le soleil envoie la chaleur sur la Terre, une partie de cette chaleur est renvoyée dans le ciel, ce qui permet de stabiliser le climat. Les gaz à effet de serre absorbent le rayonnement infrarouge émis par la surface de la Terre et contribuent ainsi à l'effet de serre. Les deux principaux responsables, c'est la vapeur d'eau et le gaz carbonique. Ces deux éléments sont naturellement présents dans l'atmosphère. Seulement voilà, l'activité humaine augmente leur concentration et c'est la source du problème. Une première question pour bien situer les choses. Qu'est-ce qu'un pédologue et en quoi consiste son travail?
La science des sols, parce qu'on appelle ça comme ça au sens générique, la science des sols, dans son histoire au début on appelait ça la pédologie. Tout simplement ça vient du grec pédos, le sol. C'était les spécialistes, les premiers spécialistes de science du sol et qui eux essentiellement travaillaient sur essayer de comprendre comment les sols se formaient et évoluaient. Et quelle était leur répartition géographique? Et souvent, ils fabriquaient des représentations des sols, donc des cartes, pour essayer de déterminer leur distribution sur les territoires.
Donc, en fait, au début, on cherchait à savoir où il y avait les sols calcaires, où il y avait les sols sablonneux. On dressait ces cartes-là.
On dressait les cartes de la nature, de ce qui représentait un peu la nature des sols. On essayait de leur mettre des noms, comme on a toujours fait pour tous les éléments de la nature. Donc, on faisait des classifications et des taxonomies. Ces travaux continuent toujours, hein, les classifications et taxonomies évoluent toujours. Et on dressait aussi des cartes de contraintes, des cartes de propriétés. On essayait d'apporter, entre autres, aux aménageurs, aux agronomes, aux gens qui font de la forêt, de la sylviculture, des éléments de description et de caractérisation des sols sur lesquels ils travaillaient.
Donc, votre travail, quand vous arrivez dans un sol, ça consiste en quoi?
La première chose, en fait, quand on est sur un site qu'on ne connaît pas, c'est de percevoir, si vous voulez, pour le site où on est, mettons qu'on est sur une assez grande parcelle, essayer de la situer dans le paysage, essayer de situer, de comprendre dans quel paysages, ce qu'on appelle nous les paysages morphogéologiques, donc la forme du paysage en relation avec le substratum géologique. Donc notre travail consiste dans un premier temps à décrire ces sols, à les analyser et à donner des fondements, leur donner un nom et leur donner les fondements de leur fonctionnement pour en tirer des contraintes éventuelles et éviter aussi maintenant, c'est à la mode alors que ça a toujours existé, notre souci est de conserver les sols et de conserver l'intégrité de la meilleure façon possible lorsqu'on les utilise pour éviter leur dégradation.
Comment la planète Terre parvenait-elle à équilibrer ses gaz à effet de serre? C'est un phénomène naturel que les scientifiques appellent la séquestration du carbone. C'est le processus par lequel la nature stocke le carbone dans le sol et dans les plantes. Nous avons appelé Michel Brossard parce que, avec de nombreux autres scientifiques, ils ont publié récemment un ouvrage intitulé « Carbone des sols en Afrique, impact des usages des sols et des pratiques agricoles ». Précisons que c'est sous la houlette de l'Institut de recherche pour le développement IRD et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO.
En réalité, c'est le travail d'un réseau qui s'appelle le réseau CASA, Carbone des Sols d'Afrique. Nous travaillons en réseau avec plein de collègues africains et de Madagascar. L'idée qu'on a eue, en fait, au cours de nos travaux, c'est qu'on a senti le besoin d'essayer de faire un petit état des lieux de nos données, de nos connaissances, et de voir comment proposer des nouvelles voies de recherche, hein, puisqu'on est payé pour faire de la recherche et améliorer la connaissance qu'on a sur les sols. Et là, on s'est centré sur le carbone des sols, compte tenu des enjeux, si vous voulez, qu'a le carbone en agriculture, parce que il y a deux grands enjeux pour le carbone, pour l'agriculture et les forêts. Le premier, c'est la fertilité. C'est un élément clé du maintien de la fertilité des sols. Et le deuxième, qui est à l'échelle beaucoup plus large, je dirais planétaire, est un enjeu environnemental. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé sur cette tentative de synthèse pour apporter des connaissances un peu regroupées sur le carbone dans les sols d'Afrique, ouais, et de Madagascar.
Je vais essayer de comprendre, c'est-à-dire que un arbre pour fonctionner a besoin de nutriments, c'est-à-dire ce carbone qui est dans le sol qu'il puise, il stocke ça sous forme de bois, ça c'est ses cellules. Le sol aussi stocke du carbone. Alors comment un sol fonctionne pour stocker du carbone ?
Alors il y a deux choses. En effet, vous citez le cas d'un arbre. Alors l'arbre, lui, il va utiliser la photosynthèse, c'est-à-dire l'énergie du soleil et les éléments minéraux qui puisent dans le sol pour fabriquer de la biomasse, donc pour faire du bois, comme vous dites. Donc ça, c'est la première voie d'entrée du carbone dans le système, en fait. Et il prélève le carbone à partir de l'atmosphère, sous forme de CO2.
C'est-à-dire les gaz de mon véhicule, les gaz des usines.
Oui, voilà, mais le CO2 fait naturellement aussi partie de notre atmosphère.
Donc ce CO2 est naturellement présent, et oui, nous, avec nos activités, nous contribuons à l'augmenter.
Voilà, c'est ça. Nous, les activités humaines, c'est ce que montrent tous les résultats, là, depuis ce qu'on appelle les gaz à effet de serre, leur effet sur le climat a fortement augmenté depuis, on va résumer ça, on va dire, grosso modo, depuis l'industrialisation intense que nos sociétés humaines ont continué depuis à peu près plus d'un siècle. Donc c'est là où ça a démarré par rapport au contenu de ces gaz dans l'atmosphère.
Revenez à ma question, comment un sol
voilà,
fonctionne ?
Voilà, justement, je revenais à votre question. Oui. Donc par rapport, vous avez deux choses à prendre en compte, c'est que d'une part, vous avez les plantes, elles assimilent le carbone, elles fabriquent de la structure, mais elles restituent aussi du carbone au sol par deux voies. Vous avez la voie racinaire, c'est-à-dire que les plantes qui poussent dégagent aussi des éléments carbonés dans le sol par leur activité racinaire, mais aussi quand les plantes meurent et quand les racines meurent, elles restituent du carbone au sol. C'est de cette façon que le carbone rentre dans le sol. Donc à partir du moment où vous avez des éléments de plantes, de résidus de plantes qui entrent dans le sol, peu à peu, il va s'accumuler à différentes. Ça va dépendre des sols, ça va dépendre du contexte climatique en général, si de beaucoup, pas beaucoup, ça dépend aussi, bien évidemment, des températures. Donc les vitesses de réincorporation de ce carbone dans le sol sont très variables. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le sol, lui, il respire également, puisqu'il contient des micro-organismes, des bactéries, des champignons et de la microfaune, des éléments biologiques vivants qui respirent. Donc le sol dégage aussi du CO2, naturellement. Donc il respire. Ça fait partie du cycle du carbone. Et nous, dans nos travaux là de ce livre, quand on évalue le stock de carbone d'un sol, en fait, on fait une photographie à un instant donné de la mettons à cette date, aujourd'hui, le 17 novembre, on fait une mesure de stock, on aura une photographie de la mesure de stock de carbone que contient ce sol. Alors ce stock, lui, ça dépend jusqu'à quelle profondeur on va le faire, mais ce stock, il intègre, si vous voulez, un peu la vie du sol sur des pas de temps plus ou moins longs, parce que ça peut varier sur en fonction de la zone géographique, du climat, du type de sol aussi, et des pratiques en surface qui font que les stocks vont plus ou moins varier. Mais ces stocks sont importants parce qu'ils nous permettent de comparer d'une part les sols au sol ensemble et de comparer aussi, mettons sur les 50 premiers centimètres de la surface du sol, l'impact des pratiques que nous avons sur le sol. Et du coup, d'avoir des éléments de comparaison, mais aussi de conseils en direction d'une conservation de ce stock de carbone, parce que c'est un élément du maintien de la fertilité. Et quand je dis maintien de la fertilité, c'est au sens très très large, c'est-à-dire ça maintient des propriétés physiques, ça maintient des propriétés chimiques, mais ça maintient aussi des propriétés biologiques du fonctionnement des sols.
C'est-à-dire que nos usages agricoles aussi, nos pratiques agricoles jouent.
Absolument. La grande variété des pratiques agricoles en Afrique et la grande variété des types de sols font que vous avez un très large panel de contenus de carbone dans les sols africains. Oui.
Donc l'idée qui a guidé votre démarche, c'est d'abord de comprendre comment ça se passe en Afrique et oui. Comment utiliser cette faculté des sols pour lutter contre le réchauffement du climat. Ou bien je schématise.
Oui, non, vous schématisez bien. Non, c'est l'idée, si vous voulez, c'est d'apporter des éléments critiques. Hein. Bon, bien sûr, ça c'est l'objet, c'est le premier objet de la science, en apportant de la connaissance, de donner des éléments critiques pour que chacun puisse apporter des choses constructives par la suite. Et donc, on voit que les stocks de carbone des sols sont un des éléments clés de l'adaptation globale du climat. C'est-à-dire que toute variation global annuel au niveau des concentrations, par exemple, d'un certain nombre de gaz à effet de serre, pourrait être, je dirais bien pourrait être compensé si on évitait la dégradation des sols et si on maintenait les stocks de carbone dans le sol ou si on les favorisait, le stockage via les plantes, dans les sols. Actuellement, on estime au niveau tropical que la déforestation est un des éléments clés, si vous voulez, en termes de production de gaz à effet de serre au niveau de toute la planète. Et on sait qu'on peut faire autrement que de la déforestation brutale tout en maintenant la productivité des systèmes. On n'est pas obligé sans arrêt déforester et gérer mal derrière. Et donc, je dirais, notre travail aussi est de contribuer à une réflexion sur un meilleur usage des sols, sur leur conservation et comment intégrer la connaissance des sols pour que les agricultures aient les armes pour bien s'adapter, en quelque sorte, aux contraintes qui sont les leurs. Après, bon, je suis bien d'accord qu'on a des contraintes socio-économiques, etc. Mais notre travail, nous, là, les gens des sciences du sol et nos collègues écologues qui travaillent sur le sujet ou les microbiologistes, etc., c'est d'alerter là-dessus et de dire qu'il y a d'autres manières de faire et qu'on peut commencer à apporter des arguments scientifiques qui permettent de travailler autrement et de faire en sorte que les choses se passent mieux.
Avec cet ouvrage, on peut dire que les chercheurs replacent l'agriculture au centre des discussions internationales sur le changement climatique. Et l'affaire ne commence pas aujourd'hui, puisque les objectifs du développement durable des Nations Unies citent entre autres objectifs la lutte contre le réchauffement climatique, la faim zéro ou encore pas de pauvreté.
Disons que les gens qui travaillent, on va dire au sens large, les pédologues, les agropédologues qui travaillent sur le carbone des sols, ça fait longtemps qu'on défend cette histoire. On a mis très longtemps à faire remonter jusque, je dirais, à l'international cette notion. Si vous voulez, au moment de l'accord de Paris, il y a quand même au niveau des conventions internationales quelque chose qui a changé au moment de la COP à Paris sur le climat. C'est que l'agriculture et les forêts ont finalement été prises en commun. Il faut savoir que depuis la convention de Rio, forêt et agriculture étaient dans des conventions séparées. On ne considérait pas l'ensemble de la productivité primaire des plantes comme étant ayant un même dénominateur, pour des raisons simplement politiques et des raisons qu'il y existe dans les conventions internationales, des espèces de silos qui ne se parlent pas trop ensemble. Bon, voilà, c'est la vie internationale qui est comme ça. Et à partir de la COP de Paris, Les choses ont varié et sous l'impulsion, entre autres, de la FAO, il y a, je dirais, un accord qui s'est glissé et qui s'appelle le Coronivia, parce qu'il a été fait dans une ville qui s'appelle Coronivia. Et en réalité, l'intérêt qu'il y a eu là-dedans, c'est qu'on a vu apparaître le regroupement de tout ce qui est forêt et agriculture ensemble. Donc ça, c'était quelque chose de très, très important. Et que, aussi, dans le cadre de cette réflexion de Coronivia, il y a toute une réflexion un peu transversale qui s'est produite de comment lier l'agriculture aux objectifs du développement durable publiés par l'ONU il y a maintenant 3 ans, à l'échéance 2030, et de se poser la question en quoi l'agriculture est importante, en quoi l'agriculture touche les SODD, et inversement, en quoi les objectifs du développement durable peuvent impacter les ODD. Donc c'est là-dessus, au niveau international, où ça a joué. Mais de notre point de vue, nous, avec nos amis des pays africains avec qui nous travaillons, on était là-dedans déjà depuis tout le temps. Notre objectif, c'est simplement améliorer et donner les éléments de connaissances, qu'ils soient fondamentales ou très techniques, à nos partenaires pour que la vie de tout le monde s'améliore, et en particulier, bon, puisque nous on travaille sur les milieux agricoles, en particulier dans les milieux agricoles et forestiers.
Disons qu'à la COP21 à Paris, vous avez réussi à entrebâiller la porte. Et depuis, les chercheurs n'ont pas arrêté de se faire
entendre. Non, ça n'a pas arrêté, en fait. Mais ça vient de beaucoup plus loin, c'est ça que je voulais dire aussi. Et en fait, ce dont je parlais, donc l'action commune de Coronivia est très intéressante de ce point de vue-là. Il s'agit surtout de faire travailler les gens avec tous les enjeux liés à l'agriculture et notamment sur les sols. C'est ça l'enjeu aussi, c'est d'apporter des éléments. Quelles sont les capacités d'adaptation des sols, quelles sont donc les résiliences de ces agricultures, de quelle façon elles découvrent, même dans des vieilles pratiques, parfois elles découvrent des choses qui leur permettent d'être beaucoup plus résilients face à des changements climatiques, mais aussi l'enjeu, c'est l'amélioration de l'utilisation de nutriments dans les systèmes agricoles, et dans des systèmes agricoles qui soient efficaces, efficients, mais non dégradatifs, parce que c'est ça un des problèmes qu'on a depuis maintenant, je dirais, une quarantaine d'années, c'est qu'on a de nombreuses pratiques agricoles extrêmement intensives qui sont dégradantes pour les sols. Et in fine, à la fin de l'histoire, nous, on est sollicités pour essayer de compenser ces dégradations qui ont été produites alors qu'on aurait pu les éviter au départ. Donc c'est aussi ça l'adaptation, c'est aussi ça la résilience, c'est de donner les clés de la conservation des sols et donc des stocks de carbone, et donc du carbone en général. Alors derrière tout ça, bien sûr, dans cette action commune de Coronivia, un des grands enjeux aussi, c'est toute la question de l'amélioration des systèmes, tout en ne perdant pas de l'objectif de toute la dimension socio-économique qui est liée à la sécurité alimentaire des pays.
Je vous remercie, grâce à vous, quand je vais marcher sur un sol maintenant, je vais le regarder autrement.
Ah, ben j'espère bien, oui.
Bonne journée.
Je vous remercie, monsieur. Bonne journée à vous et aux auditeurs. Okay. Au revoir.
Nous étions aujourd'hui en compagnie de Michel Brossard, qui est pédologue à l'Institut de recherche pour le développement et président de l'Association française pour l'étude du sol. Ce scientifique et homme de terrain nous parlait de la séquestration du carbone dans les sols agricoles en Afrique. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Eva Piedel, au micro Sayouba Traoré. Pour retrouver cette émission, RFI.fr. Pour ceux qui veulent nous écrire, lecoqchante@rfi.fr. Et vous pouvez également consulter notre page Facebook, Le Coq Chante. Si vous aimez cette émission Le Coq Chante, on vous conseille de vous y abonner en recherchant Le Coq Chante dans votre application favorite de podcast. Et si vous voulez nous encourager, mettez-nous 5 étoiles et laissez-nous un commentaire.